We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Vous la réclamiez depuis des mois, vous attendiez avec impatience la nouvelle édition de Passe à la PME, soyez heureux, l'émission est de retour et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Carole Gandon. Bonjour Carole Gandon.
Bonjour.
Et elle dirige comme chef de projet international un réseau extrêmement intéressant sur la santé dont on va parler ce matin, qui s'adresse à vous directement en ce qui concerne les PME, puisque elle peut avoir un impact énorme sur votre santé, c'est le cas de le dire, puisque en proposant vos prestations à ce réseau, vous allez pouvoir effectivement afficher une santé insolente et une croissance économique délirante. Alors sur plusieurs projets, sur l'activité du réseau qui s'appelle Reza IDF et dont on va parler ensemble avec Carole, et puis aussi sur un projet qui s'appelle Happy, projet extrêmement intéressant qui va parler du mieux vieillir. Alors c'est vrai que pour des jeunes entrepreneurs que vous êtes de l'autre côté, ça pourra vous troublez un petit peu, mais nous allons tous vieillir en bonne santé grâce à Carole et à ce projet dont on parlera tout à l'heure. Alors, Carole Gandon, d'abord, c'est un poste tout nouveau pour vous. Vous êtes arrivée au mois de mars.
Oui, tout à fait.
Vous aviez fait quoi avant ?
Alors, avant, j'ai travaillé comme chef de projet Europe dans une structure adossée au réseau des écoles des mines.
D'accord.
Qui s'appelait Armin.
D'accord.
Et donc, je m'occupais de la gestion d'un portefeuille de 5 projets européens coordonnés par Armin.
Très bien. En France, à l'étranger, vous me disiez que vous avez une petite expérience allemande.
Oui, alors non, j'ai une expérience universitaire. D'accord. À Berlin. J'ai passé un an d'études là-bas dans le cadre de mon parcours. Mais mon précédent poste, c'était un poste de gestionnaire de projet. Donc, je m'occupais de montage et des gestions de projet à l'international. Donc, pas mal de déplacements, pas mal d'organisations de réunions dans toute l'Europe. Donc.
Très bien. Alors, projet extrêmement intéressant parce qu'on parle rarement de santé. Or, la santé reste un des marchés clés. Et puis, plus la population, et non pas la pollution, vieillit, plus ça devient un marché colossal. Et c'est un marché sur lequel les PME pourraient avoir leur rôle à jouer. Et c'est quelque chose dont vous me disiez que c'était vraiment très ancré dans les valeurs de Reza. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est avoir un petit peu d'historique, néanmoins, Carole, sur ce Reza IDF. IDF pour Île-de-France, bien évidemment, on y reviendra, réseau francilien. Alors, d'où vient un petit peu ce projet de Reza IDF ?
Alors, en fait, donc le Reza IDF est un groupement d'intérêt public qui a été créé par Dominique Legouge, donc directeur d'hôpital, qui a dirigé pendant de nombreuses années l'hôpital de Nemours.
D'accord.
Qui a décidé en 2007 de se lancer dans l'aventure et de créer donc ce groupement d'intérêt public, ce réseau.
Ouais.
L'objectif étant de mutualiser les achats des hôpitaux.
D'accord.
En tout cas, sur la région d'Île-de-France, dans un premier temps.
Bien sûr.
C'est notre cœur de métier pour l'instant. Donc le Reza IDF rassemble aujourd'hui 120 établissements de santé et médico-sociaux, donc essentiellement des hôpitaux et des maisons de retraite.
D'accord.
Donc des établissements publics ou du secteur privé non lucratif.
D'accord.
Et donc l'objectif, c'était de professionnaliser les achats. L'idée en fait de base, c'était de dire que dans un contexte de contraintes budgétaires très très importantes pour les milieux hospitaliers, il y avait d'importantes économies à réaliser, d'importants gisements de valeur qui se trouvent dans les achats. Les achats, ça représente un poste très très important au niveau financier à l'hôpital. C'est le deuxième poste budgétaire après les dépenses de personnel. Et donc le fait de professionnaliser la fonction achat, d'essayer de connaître bien le marché, de faire jouer correctement la concurrence entre les fournisseurs, négocier pour obtenir plus de qualité, évidemment des meilleurs prix.
Oui.
Ça permettait aux hôpitaux d'être plus compétitifs, entre guillemets, puisque c'est bien le terme à la mode, mais surtout de se concentrer sur leur cœur de métier, le soin et le service, l'offre de soins et le service.
Alors, est-ce que ça veut dire, quand on est contraint budgétairement de façon extrêmement forte, parce que j'imagine que les pressions sont assez importantes pour diminuer les coûts, est-ce que ça veut dire qu'on est quand même très orienté sur les coûts, on arrive quand même à préserver l'idée du mieux 10 ans que du moins 10 ans ?
Oui, non, tout à fait. En fait, l'objectif aujourd'hui de nos acheteurs au Reza IDF, c'est d'avoir en fait, le terme anglais, c'est best value for money, mais c'est donc c'est pas forcément le best price. C'est d'avoir le meilleur service, la meilleure qualité. Ça peut être aussi bien dans les délais de livraison que sur la qualité elle-même du produit, son caractère innovant, des tas de critères. Et c'est vrai qu'au Reza IDF, c'est très important aussi qu'on s'adresse aux PME lorsqu'on lance nos appels d'offres, qu'on essaye d'obtenir des réponses de la part de PME franciliennes, mais pas seulement.
Exactement. Et ça, on va tout à fait y venir. Alors, qu'est-ce que ça représente le RESA en termes de personnel ? C'est une grosse structure, une petite structure ? Comment ça marche ?
Alors, en fait, on est une petite vingtaine aujourd'hui. D'accord. Donc, on a pas mal grandi ces dernières années. Ouais. Moi-même, voilà, j'ai intégré récemment la structure. Et oui, on fonctionne comme une petite PME, hein, nous D'accord. aussi, une vingtaine de personnes. Donc, voilà, on a une proximité avec notre directeur qui est là au quotidien sur des tas de dossiers. Et puis, un service aux établissements. En fait, on a nos acteurs travaillent avec des points de contact dans chaque établissement.
D'accord.
Des spécialistes qui répondent, en fait, qui décrivent les besoins qui sont dans les hôpitaux. Donc, pour les médicaments, on a un réseau de pharmaciens. Pour les équipements biomédicaux, par exemple, on a des ingénieurs qui sont dans le point de contact.
Mais ça veut dire que, du coup, les acheteurs ont un niveau de technicité un peu hors du commun ou pas spécialement ? Ils spécialisent un petit peu par grande fonction ? Comment ça se passe ?
Oui, ils sont acheteurs de toute façon en santé. Clairement, l'achat hospitalier, c'est une spécialité maintenant.
Bien sûr.
Donc, ils sont devenus spécialistes au fil des années, les discussions avec les points de contact dans les établissements, avec les fournisseurs.
D'accord.
Et puis, chacun a un peu son domaine. Il y en a une qui s'occupe plus de tout ce qui est médical, l'autre plus dans le non-médical. On a un autre acheteur qui est chargé de mission qui s'occupe plus des équipements biomédicaux, etc.
D'accord.
Donc, ils ont un peu leur thématique.
Donc, il y a des hommes et des femmes. Et puis, de l'autre côté, il y a des outils. Parce que pour faire fonctionner un système d'achat, il faut du e-procurement ou du procurement tout court. Alors, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que vous avez acheté des outils sur le marché que vous avez customisés, vous les avez développés vous-même. Il y a des outils donc, qui sont à disposition et qui connectent à la fois les fournisseurs, vos établissements, vous, et un point central qui est un petit peu géré par vous. Comment ça se passe ?
Oui, alors en fait, l'outil principal, c'est une plateforme qui s'appelle achatpublic.com.
D'accord.
Et qui fonctionne aujourd'hui, pas uniquement pour le RESA Île-de-France, en fait.
D'accord.
Mettez
à disposition
aussi. Établissements qui l'utilisent.
D'accord.
Et donc, c'est une plateforme dématérialisée qui permet de mettre en relation tous les fournisseurs qui souhaitent répondre à nos marchés.
Alors, pour aiguiser un petit peu les appétits de nos auditeurs, qui sont quand même principalement des créateurs, des développeurs, des dirigeants de PME, et ça va beaucoup les intéresser, ce que vous leur proposez ce matin. Donc, on va les mettre un peu en appétit. 1 milliard d'achats par an dans vos 120 établissements. Alors, moi, j'avais deux questions sur ce chiffre. La première, est-ce que ça veut dire que vous continuez à conquérir de nouveaux établissements et que finalement, ce marché va grossissant, ou est-ce qu'avec 120 établissements, on a fait un petit peu le plein sur l'Île-de-France ? Et la deuxième question, c'est ce milliard dont tout le monde rêve, comment est-il géré ? C'est-à-dire, moi, je suis une PME, j'écoute cette émission. Je ne vais pas appeler Carole Gandon sur son portable, que je ne vais d'ailleurs pas donner à l'antenne aujourd'hui, mais comment je fais effectivement pour rentrer dans ce système, proposer mes prestations ? Donc, on le verra tout à l'heure, il y a un petit côté benchmarking qui est une partie de votre boulot. Vous allez chercher ce qui se fait de mieux sur le marché. Mais si je veux me présenter spontanément, comment ça marche ? Et est-ce qu'il y a des tailles de marché ? Comment vous privilégiez les PME ? Alors, ça fait beaucoup de questions en une, mais en gros, comment ça marche si moi, je veux entamer cette démarche et venir vers vous ?
Alors déjà, sur le nombre d'établissements, votre première question, donc on a en fait effectivement 120 établissements.
D'accord.
Tous les hôpitaux parisiens hors APHP, les hôpitaux universitaires de la ville de Paris, donc ont leur propre système d'achat. Ils mutualisent leurs achats de leur côté.
D'accord.
Et ensuite, tous les autres hôpitaux parisiens sont déjà adhérents du RESA.
D'accord.
Ensuite, sur la région Île-de-France, il y en a aussi pas mal. Quasiment tous, me semble-t-il. Ensuite, les nouveaux adhérents qu'on va aller rechercher, ce sont maintenant les maisons de retraite, puisque les établissements médico-sociaux ont moins ce réflexe de faire appel à une structure extérieure pour les aider dans leurs achats.
Oui.
Et pourtant, ils ont beaucoup à y gagner, donc on essaye de les inviter à nous rejoindre. Sinon, sur votre autre question, donc pour la capacité d'achat totale de notre réseau, donc sur les 120 établissements, ce milliard d'euros annuel. Il faut savoir que ce milliard d'euros, ce n'est pas uniquement l'achat que nous réalisons, C'est vraiment la capacité de tous nos établissements, puisqu'ils sont toujours libres, lorsqu'ils nous ont rejoints, de passer des marchés de leur côté.
D'accord.
Mais effectivement, une grosse partie passent sur nos services. Oui. Et donc, on a deux outils principaux. On a l'outil du groupement de commandes, qui est un outil traditionnel, en fait, des hospitaliers pour mutualiser leurs achats, essayer d'obtenir des gros volumes pour faire baisser un petit peu les prix. C'est traditionnellement comme ça que...
Alors, vous le distinguez tout à l'heure, notamment par les quantités qui sont déjà connues et définies un petit peu en amont.
Voilà, exactement, exactement. Sur un groupement de commandes, on sait à l'avance combien on va commander de quantité.
Enfin, d'accord.
Ouais. Quelle quantité on va commander de produits ou de services. Et le deuxième outil qu'on a mis en place depuis 2010, c'est l'outil de la centrale d'achat.
D'accord.
Et là, en fait, on se positionne un petit peu comme d'autres organismes, comme l'UGAP, par exemple, qui est une centrale d'achat publique pour toutes les fournitures publiques. Le principe, c'est que les quantités ne sont pas définies à l'avance. Nous allons lancer un marché.
Oui.
Et on a identifié un besoin, mais on n'a pas encore chiffré ce besoin. Donc, on va lancer un marché auprès de fournisseurs. Et on va ensuite, lorsqu'on aura sélectionné le fournisseur gagnant, le référencer dans notre centrale d'achat.
D'accord.
Et ce qui fait que tous les établissements qui sont membres du RESA pourront avoir accès à l'offre de ce fournisseur via notre catalogue sans repasser de marché avec toute la procédure de mise en concurrence, de publicité,
d'accord,
etc. Ils pourront passer un simple contrat avec ce fournisseur.
Est-ce que ça veut dire que vous avez aussi sur un produit identique plusieurs fournisseurs pour avoir, je sais pas, peut-être un fournisseur capable tout d'un coup de répondre à une énorme commande parce qu'il a un gros volume, puis en même temps un plus petit qui peut répondre à des plus petites commandes pour équilibrer un peu, ou est-ce qu'en général vous avez vraiment un gagnant, j'allais dire, de la recherche et vous avez plutôt un fournisseur par produit?
Alors en fait, ça va dépendre des besoins. Tout simplement, si on a un fournisseur qui est référencé et qui n'est pas capable d'honorer la commande parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'établissements qui font appel à lui, là on va dans la foulée lancer un autre marché sur un service similaire pour avoir un autre fournisseur référencé pour pouvoir répondre à la demande.
Donc, alors, c'est pas... Carole, vous me disiez tout à l'heure que c'était vraiment ancré dans les valeurs du RESA IDF que d'essayer de donner la parole et l'accès aux PME. Alors, comment vous assurez ça? Est-ce que vous essayez, dans votre politique de benchmark, etc., d'aller plutôt voir des boîtes de plus petite taille et de faire en sorte absolument de référencer non pas le gros acteur, comme toujours, du marché, mais vraiment ceux qui peuvent fournir à une échelle un petit peu plus faible? Comment vous organisez ça?
Absolument. En fait, ça fait partie des valeurs du RESA IDF depuis sa création, de favoriser l'écosystème industriel dans lequel on évolue.
Ouais.
Et donc, ça passe par la prise en compte des PME et des établissements de taille intermédiaire.
Ouais.
Clairement, ça fait partie de nos valeurs et de notre volonté. Donc, justement, j'en parlais, l'outil de centrale d'achat est idéal, en fait, pour avoir accès, enfin, pour donner à des PME l'accès à leur marché.
Ouais.
Parce que, elles n'ont à répondre qu'à un seul marché. Elles sont référencées sur notre catalogue de fournisseurs. Donc, elles ont une visibilité. C'est un gage de confiance de la part pour les établissements qui n'auraient pas forcément été vers elles d'emblée, spontanément. Donc, tout à fait. S'impliquer dans la réponse à nos appels d'offres via la centrale d'achat, c'est un gros plus pour elle. Et nous faisons, nos acheteurs en tout cas au quotidien, travaillent en ce sens pour aller identifier des PME qui sont susceptibles de répondre. On a toujours essayé de travailler auprès des PME. Notre directeur, en fait, est membre fondateur de l'association Pacte PME.
Oui.
Et le RESA IDF fait partie du conseil d'administration de l'association Pacte PME. Donc, on a un certain nombre de petites success stories comme ça, avec des petites entreprises. D'accord.
Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une bonne chose. Donc, ça veut dire que vous allez les chercher, mais est-ce que moi je peux me faire connaître de vous en disant voilà ce que je fais, et si éventuellement vous avez un appel à projet qui correspond, ou si vous pensez qu'il y a un intérêt pour mon produit, c'est-à-dire si je veux me faire connaître spontanément, c'est possible aussi?
Oui, c'est possible. Vous pouvez sur le site du RESA IDF prendre contact avec nos acheteurs. Alors nous, on a en fait une politique fournisseur qui est structurée, donc on organise régulièrement des réunions lorsqu'on sait qu'il y a un besoin qui est identifié sur nos établissements. Ils vont faire une petite étude de marché, ils vont essayer d'aller faire un peu du sourcing, voir quels sont les fournisseurs qui pourraient être intéressants.
Ouais.
Et on organise des réunions de rencontres entre les fournisseurs potentiels et des membres de nos établissements pour discuter ensemble des besoins et de la réponse qu'ils peuvent apporter.
D'accord.
Et seulement après, on va élaborer notre marché sur la base de ce qu'on aura vraiment recueilli.
Alors, avant de parler d'un exemple concret, puis surtout du projet API pour les quelques minutes qui nous restent, je suis une entreprise super innovante et j'ai vraiment un produit, par définition, pour lequel il n'y a pas d'appel à projet ou il n'y a pas de lancement puisque c'est un produit nouveau. Comment est-ce que vous allez éventuellement me donner un coup de main pour donner une visibilité à ce produit qui vous paraît vraiment intéressant, pertinent et qui pourrait intéresser certains de vos membres?
Bah justement, c'était par exemple par l'outil de la centrale d'achat.
D'accord.
Bon, il faut que clairement ce produit, même si nos acheteurs vont le trouver formidable, il faut qu'on ait la confirmation de la part de nos établissements que voilà, ça répond à un vrai besoin dans l'hôpital ou dans les maisons de retraite. Mais s'il est vraiment nouveau, par définition, on n'a pas forcément encore identifié l'usage qu'on va en avoir, etc. Mais oui, tout à fait. Nos chargés de mission achats vont aller échanger avec nos établissements pour leur proposer, leur dire voilà, il existe ça, est-ce que ça pourrait pas vous changer la vie quelque part,
trouver éventuellement quelqu'un qui veut se dévouer pour un test, un pilote, etc.
Exactement. Alors pour l'instant on le fait de façon un peu informelle, comme ça par l'action de nos chargés de mission. Il y a quelque chose qu'on va peut-être mettre en place prochainement, c'est justement l'expérimentation. En fait, on vient d'adhérer là au Club Open Innovation, qui est une structure en fait co-dirigée par le Paris Région Lab et puis la ville de Paris, me semble-t-il.
D'accord.
Et l'objectif, c'est de rencontrer des start-up qui ont des produits complètement nouveaux à nous faire découvrir et de mettre de façon en phase de test en fait ces produits à l'hôpital pour tester leur pertinence.
Parfait.
Et si c'est intéressant, on achète.
Bon, écoutez, c'est très excitant pour les boîtes. Tout ça. Alors, on avait l'exemple justement de Safecard. On en dit deux mots parce qu'il nous reste quelques toutes petites minutes et puis je voudrais parler d'API rapidement. Donc, Safecard, voilà l'exemple d'une PME innovante qui a un beau produit, vous l'exposez, puis du coup, ses premières commandes commencent à tomber un peu dans le cadre de la collaboration avec Pacte PME, c'est ça?
Absolument. D'accord. En fait, on a été mis en relation dans le cadre de Pacte PME avec cette entreprise. Et donc, eux, en fait, ils proposaient un terminal de paiement intégré avec lecture de carte vitale, transmission des données sur le site de l'assurance maladie, mise à jour du dossier patient et puis paiement par carte bancaire.
Magnifique.
Donc une solution all inclusive, tout en un, voilà.
D'accord.
Qui est très intéressante pour les établissements. Donc évidemment, certains étaient déjà équipés avec plusieurs terminaux, mais qui peut-être, l'obsolescence gagnant à terme, auront vocation à s'équiper avec ce nouvel outil.
Ouais.
Donc certains de nos établissements l'ont déjà fait et ça a été rendu possible par justement le référencement de ce fournisseur dans notre centrale d'achat.
Très bien. Éternel concept de la destruction créative. Alors, pour terminer, API, alors si je résume en quelques mots, alors d'abord API, je trouve que c'est extrêmement bien choisi, mais j'imagine que vous y aviez bien réfléchi. Donc l'idée, c'est de lancer avec l'Union européenne un projet sur tout ce qui concerne le bien vieillir, et donc toutes ces innovations, notamment de PME, qui pourraient arriver avec des produits qui répondent exactement à ce mieux vieillir, que vous allez sourcer sur toute l'Europe, et qui vont pouvoir, du coup, dans le cadre d'un appel à projet, donc 4 millions, mais avec un premier 1,5 million, du coup, pouvoir acheter les détecter et les acheter ensuite. Je résume bien?
Absolument, tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Donc l'idée, c'était de se structurer à l'échelon européen pour de l'achat d'innovation en faveur du bien vieillir. On a réuni autour du réseau IDF un consortium de 10 partenaires venus de 6 pays différents.
D'accord.
Et parmi ces partenaires, on compte 5 centrales d'achat, donc nous et puis 4 homologues donc en Angleterre, en Belgique, en Italie et au Luxembourg. Et ainsi que d'autres partenaires au niveau français, on a Oseo qui va participer
pour la partie
également.
Innovation.
Voilà,
d'accord.
Exactement, innovation et contact avec les réseaux de PME.
Très bien.
Et puis l'école de la santé publique.
D'accord.
Et donc pour les partenaires français. Donc l'idée, c'était de 3 phases principales. Dans un premier temps, identifier toutes les solutions innovantes qui existent en Europe en faveur du bien vieillir via un outil web.
Mmh.
Deuxième phase, c'est sélectionner les meilleures innovations les plus pertinentes. Et troisième phase, c'est les acheter en commun via un appel d'offres transfrontalier de 2,5 millions d'euros qui, donc, ça va intervenir dans 3 ans, le temps qu'on mette tout ça en place et qu'on identifie vraiment les meilleures solutions. Mais quand on les aura shortlistées, l'objectif, c'est ça, c'est de les acheter en commun.
Très bien. Alors, belle initiative. Carole Gandon, on va conclure là-dessus. Donc, Rapidement, le site sous votre contrôle, hein, www.reza-du6idf.com. Donc là, ça permet d'accéder effectivement, d'être en contact avec vous, d'accéder, de regarder la plateforme. Donc pour toutes nos PME qui veulent se rapprocher de vous, hein, à l'issue de cette émission, elles le peuvent.
Voilà.
Elles connaissent votre nom, elles savent ce que vous faites maintenant. Et puis le projet API qu'on suivra, bah, d'où vous viendrez nous reparler pour voir comment il évolue.
Il va démarrer en octobre, en fait, au niveau opérationnel. Donc un petit peu de patience, mais on vous tiendra au courant.
Bah, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Et puis on va laisser maintenant la parole à Emmanuel Leprince de PAC PME qui va nous commenter un petit peu cette initiative et comment on le fait dans le cadre de ce partenariat avec tout ce qui permet effectivement de rapprocher le monde des grands groupes et des PME.
Oui, bonjour à vous deux, bonjour Denis. Ce que je vous propose, c'est de vous parler aujourd'hui d'un des volets des outils ou des pratiques construites par les membres du pacte PME pour faciliter, pour rendre possible cette relation entre des grands comptes d'une part et des PME innovantes, des PME de croissance d'autre part, dans l'intérêt bien sûr des deux parties, hein, pour les PME on voit bien, et pour les grands groupes aussi, renforcer leur compétitivité. Donc on sait que ce sont des relations qui sont peu faciles, les relations entre des grandes structures et des petites structures, je dirais, naturellement sont complexes pour un certain nombre de raisons, hein, qu'on connaît bien. Et donc on a travaillé ensemble, un grand groupe et PME, à voir comment adapter un certain nombre de fonctionnements des grands groupes, et on fait aussi la même chose côté PME bien sûr, pour réussir ces relations. Et on débouche en particulier sur un certain nombre de pratiques qu'on a identifiées chez certains groupes ou qu'on a construites ensemble et qui sont recommandées maintenant à l'ensemble des groupes. Ces pratiques sont regroupées par thème, et un des thèmes, c'est l'adaptation des règles d'achat, l'adaptation des processus d'achat. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, naturellement, les règles d'achat sont orientées vers de la mutualisation des achats, la diminution du risque. Vu des acheteurs, un bon acheteur, c'est quelqu'un qui est capable de passer peu de marchés à peu de fournisseurs, mais des gros marchés, parce que ça coûte moins cher à gérer. Donc tout ça, c'est naturel et ça fait sens, mais ça ne va pas dans le sens de la relation avec des PME. Donc les adaptations qu'on a identifiées, je peux en citer certaines, hein, et aujourd'hui, elles sont documentées par des exemples, et ces exemples sont mis à disposition des groupes membres et des PME également. Donc exemple de pratiques d'adaptation. La première, c'est la problématique de la dépendance économique. Hein. Vous savez que beaucoup de groupes ont entre guillemets peur, en tout cas juridiquement, de peser trop dans le chiffre d'affaires de leurs fournisseurs, et donc mettent en place des règles. Par exemple, on ne doit pas peser plus de 25% du chiffre d'affaires d'un fournisseur, quoi qu'il arrive. Et on voit que ça, c'est problématique pour la relation avec des PME. Donc une des bonnes pratiques qu'on recommande, c'est d'autoriser la dépendance économique, de manière temporaire, bien sûr, hein, pour pas que ça ait un impact trop important en termes économiques. Pourquoi ? Parce qu'on a identifié le fait que, juridiquement, il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas d'impact à peser beaucoup dans le chiffre d'affaires d'une PME. Et on l'a donc, c'est une pratique recommandée et qui est documentée aujourd'hui. Autre exemple de pratique recommandée, de plafonner le montant des assurances demandées. Hein, il peut arriver que les assurances demandées soient très élevées parce que le risque soit très fort. C'est problématique pour les PME, donc des pratiques, par exemple, c'est des grands groupes qui, à partir d'un certain montant de dommages, font fonctionner leur propre assurance, pour que la PME, elle, n'ait qu'à couvrir des dommages jusqu'à, par exemple, 10 millions d'euros. Voilà, il y a d'autres pratiques de ce type, il y en a une petite dizaine. Par exemple, bien sûr, mettre en place des allègements permettant une accélération des processus de contractualisation, développer une politique d'allotissement, alléger le référencement, ça c'est un sujet qui est clé, y compris pour les acheteurs, pour qu'eux-mêmes ils puissent passer des marchés de manière légère à des PME non référencées. Voilà, etc. Choisir le mieux disant, un certain nombre de critères de ce type. Tout ça, en fait, bien évidemment, est dérogatoire. Il ne s'agit pas de l'appliquer dans tous les cas, mais il s'agit de permettre aux acheteurs, permettre aux prescripteurs de passer outre, je dirais, les pratiques habituelles, dans certains cas, des cas bien encadrés, pour permettre cette relation. Merci à vous deux.
Alors, merci à Emmanuel Leprince, qu'on a toujours plaisir à accueillir dans cette émission, pour ce partenariat qui est extrêmement productif. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, certainement. Même lieu, même heure, même magnifique radio We Do Biz pour Passerelle PME. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.